This is the board with the commercial stakeholders group in the Padang Ballroom on February 10th, 2015 from 11:15 to 12:15.
general. All right, folks, why don't we go ahead and get ready?
Elisa Cooper au micro, bonjour à tous, nous allons donc commencer. Je voudrais commencer par remercier le conseil d'administration parce qu'il prend le temps de venir nous rencontrer, nous apprécions cela. Nous voulons donner une structure différente à cette réunion. Car nous avons eu une réunion avec Fadi déjà, nous avons une réunion, une communication, un contact positif. Il y a maintenant des compréhensions, des perspectives différentes entre le BC, l'IPC et les ASP. À cause de cela, nous voulons structurer cette réunion un peu différemment. Nous allons donc commencer aujourd'hui en répondant au comité. Ils nous ont demandé d'identifier nos risques, nos premiers 5 risques pour 2015. Nous allons souligner les points clés et aussi, en deuxième partie de la session, nous allons parler des sujets, donc les plus importants pour chaque unité constitutive. Il s'agira des problèmes de chaque... qui concerne chaque unité constitutive. Nous allons passer à la première diapositive. On nous a demandé de fournir nos risques d'entreprise. Voilà notre liste sur la diapositive. Voilà, il y a quelque chose que je voulais vous expliquer. En tout premier, il s'agit de l'information que nous avons préparée en 2 semaines. Donc, c'est notre meilleure approche, la meilleure liste qu'on puisse fournir dans cette période de 2 semaines. Et nous avons donc fait une liste des risques les plus importants pour les IPC, les ISP et les BC. Quand vous regardez cette liste, vous allez voir qu'il y a plusieurs points communs, il y a des liens qui sont similaires et en même temps, ils sont très distincts. Parce que les perspectives sont différentes pour les IPC, les ISP et les BC. Ceci étant dit, en troisième, comme vous le voyez, il y a des inquiétudes qui sont partagées entre toutes les unités. Et cela a à voir avec le modèle multipartite. Nous voulons que vous puissiez regarder cela et nous poser des questions. Ainsi, nous pourrons avoir un meilleur dialogue et plus de conversations, plus que nous en avons eu auparavant. J'aimerais que le conseil d'administration nous pose des questions et nous aimerions savoir s'il y a des inquiétudes, s'il y a des besoins de nouvelles informations et nous aimerions savoir s'il y a des inquiétudes vis-à-vis de ces 5 risques les plus importants. Steve Crocker, oui, merci Elisa et bienvenue à tout le monde. Nous avons reçu un message très clair durant cette réunion et même les réunions précédentes. Il s'agit du fait que les unités constitutives sont toutes différentes et que essayer d'avoir une représentation ou un orateur est une chose un petit peu difficile qui ne fonctionne pas très bien. Donc, il est trop intéressant de voir qu'il y a une séparation des sujets et des problèmes. C'est juste un détail. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons observer. Il faut qu'il y ait un modèle qui correspondrait mieux. Ce n'est pas forcément la bonne réunion pour détailler cela, mais je voulais juste quand même reconnaître ce point de vue et je voudrais apprécier cette nouvelle méthode de présenter les choses. Le lien, la communalité, c'est le risque. Le risque du modèle des multiparties prenantes. Oui, il y a... Non. Nous voyons donc chaque chaque unité constitutive et nous écoutons tout le monde et nous avons, c'est difficile de voir qu'il n'y a pas de risque. Je vois, par exemple, dans cette diapositive qu'il y a une plainte assez importante de la part de cette unité constitutive particulière qui dit que le modèle multipartite ne fonctionne pas. Il faut pouvoir se séparer de son rôle et de voir les choses avec une perspective différente et de voir que, par exemple, l'unité représentant la propriété intellectuelle et les autres unités constitutives commerciales et il serait facile de voir que telle ou telle unité constitutive a ça, ça ou ça comme problème. Et il y a une différence de perception intercommunautaire à propos de chaque sujet. Il serait difficile de trouver donc un équilibre. Chacun ne va pas obtenir tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il veut. Il faut compter sur le fait que tout le monde n'a pas un verre qui est plein. Je vais m'arrêter là. Ram Mohan, je suis co-président du comité de risque. Et tout d'abord, je voulais remercier les trois groupes, les trois unités constitutives pour nous fournir le rapport de façon assez rapidement. Et c'est bon de voir clairement ce que chaque groupe pense. C'est très utile quand il s'agit de partager nos idées sur ce qu'on va faire avec toutes ces informations. En interne du comité, il y a un processus pour observer les risques d'entreprise. Et nous commençons juste à collecter, ce dont on a besoin. Ce que le comité a dit au personnel durant la réunion de Los Angeles en 2014, nous avions demandé au personnel de l'ICANN d'aller vers l'équipe de leadership mondial et de s'assurer qu'il y ait un consensus parmi eux sur ce que les risques d'entreprise devaient être. Ce processus est en cours. La prochaine étape de la part du comité, c'était d'observer, donc de faire des sondages au milieu de la communauté et de voir quels étaient les risques les plus importants. La prochaine étape dans ce processus, c'était de commencer à comparer et d'identifier quelles étaient les lacunes. Il est donc très facile, ce serait très facile d'avoir 10 personnes dans une salle qui se rassemblent et qui disent « bon voilà, quels sont les risques ?» et de commencer à travailler là-dessus. Nous avons pris un peu de recul et une approche plus conservative avec pour objectif de pouvoir arriver à un consensus, disons, de base, mais aussi à mettre en place des priorités vis-à-vis de la sévérité de chaque problème en évaluant chaque risque et ensuite de pouvoir rassembler un plan de mitigation, de médiation. Cela ne va pas causer forcément de causer de risque à l'organisation d'avoir un plan d'atténuation, mais nous demandons des informations en suivi. Comme Steve l'a dit, je pense que durant cette session, je ne sais pas si c'est vraiment productif d'aller plus dans un débat détaillé avec des questions et des réponses sur ce sujet, mais ce que j'aimerais faire, c'est de sonder un peu les membres du conseil d'administration et de voir, de revenir avec d'autres questions s'il y a du suivi à faire là-dessus. Lorsque nous passons à la prochaine étape détaillée, C'est là que nous pourrons identifier des lacunes. Les détails les plus importants, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y aura du chevauchement sur ce qui a déjà été fait. Il y a des domaines qui sont intéressants, les changements de juridiction, par exemple, c'est intéressant quand il s'agit des risques d'entreprise les plus importants. Je suis aussi curieux de voir quelles seraient les différences entre la cybersécurité et la sécurité. S'il n'y a pas de différence, par exemple, c'est peut-être la même idée qui est interprétée avec deux mots différents. Donc, on pourrait commencer avec des commentaires là-dessus. Elisa, oui, Bruce, je suis désolée. Huawei. Je voudrais parler. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que Ram a dit. J'ai vu une opportunité avec les unités constitutives commerciales. Je pense que, vous savez, à la base, quand il s'agit du domaine de la sécurité, ce que vous pourrez faire. Qu'est-ce qui vous inquiète au niveau de la sécurité? Est-ce que ça vous avez inquiétude ISP ou aussi BC? Quelles sont les différences? Elisa, oui, je peux adresser cela. Il y a deux couches, disons. C'est la sécurité d'ICANN, sa propre infrastructure. C'est la sécurité en général, même si on n'a pas de contrôle là-dessus. Disons, c'est quelque chose que peut-être le monde externe, en externe, les gens peuvent regarder, observer cela pour voir où ICANN doit prendre ses responsabilités, même s'il n'y a pas de responsabilité sur ces parties, disons, sur ces. Il faudrait peut-être éduquer et c'est notre perspective. Je vais passer le micro aux ISP pour savoir exactement de quoi il parlait quand il parlait de sécurité. Oui, merci. La personne au micro, le nouvel intervenant, oui, il s'agit de la sécurité du DNS. Les manques à la sécurité du DNS. Et c'est très important que ICANN, en tant qu'organisation, voit son rôle dans ces domaines et accepte sa responsabilité. La perception, c'est tout. C'est une partie de ce qui de deux couches dont on parle. Oui, vous savez, la perception, la cybersécurité, c'est un problème très important. C'est un problème très large. Et pour résoudre la cybersécurité à Cannes n'est pas assez bon, disons. Et ce serait peut-être plus facile certaines de ces corporations avec lesquelles vous travaillez ont des experts dans le domaine de la cybersécurité. Une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est que on pourrait peut-être clarifier quelle est la sécurité ou quel genre de sécurité dans laquelle ICANN pourrait s'engager. Et de voir. On pourrait. Vous savez, les histoires de sécurité, c'est très large. Ça peut être très dangereux aussi. ICANN est en haut de la pyramide. Et moi, je pense que pour pouvoir manipuler la sécurité, je pense que ça pourrait devenir très intéressant, très dangereux, à mon avis. Il faudrait voir ce qu'on pourrait faire pour pouvoir aider. Elisa Cooper, merci. Je vois que Bruce et Ram ont des questions. Bruce Tonkin, oui, merci. Bruce, juste quelques observations au niveau du modèle multipartie prenante. Et c'est d'identifier donc les risques, comme Ram en a parlé. Il est intéressant de notre plan de stratégie et notre premier objectif stratégique, c'est de promouvoir l'approche multipartie prenante. Une des choses qui serait utile d'obtenir des unités constitutives, c'est des propositions concrètes pour que l'on puisse fournir des conseils. Et le danger, c'est que c'est toujours les mêmes membres depuis 10 ans. Comme vous savez, si vous avez un produit et que vous avez des nouvelles personnes qui arrivent, vous savez que vous n'aurez pas assez de personnes pour gérer tout cela. Il faut donc plus de personnes. Combien y a-t-il de personnes dans cette salle sont venues à la première réunion de l'ICANN? Levez la main. Si vous êtes là pour la première fois, si c'est votre première réunion ICANN, il y en a 3 ou 4 dans toute cette salle. Et c'est un risque normal. Si vous regardez, vous observez cela, vous voyez que c'est un risque. Nous devons investir donc de façon consciente à faire venir participer plus de personnes. Elisa, Ron, Fadi, Greg, Ray. Merci. Ron Mohan au micro. J'ai une question sur 2 ou 3 autres choses. Je voudrais des points de clarification, s'il vous plaît. Du côté de la liste, sur la liste ISP et IPC, il y a 2 éléments qui parlent d'échecs de programmes ou de projets en particulier. Je pense que ce qui serait utile en addition de l'identification des risques, c'est de comprendre quels sont les succès à votre avis. C'est assez direct comme approche au niveau d'un modèle de médiation, d'atténuation de risques, identifier les échecs comme des problèmes et ensuite étendre beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer d'arrêter les échecs ou d'arrêter les ruptures, les violations, non, les échecs. Elisa, oui. Je parlerai de cela plus. Je vais répondre à cela et quand je formulerai une réponse quand je rentrerai à la maison. Fadi, Greg et ensuite Ray. Fadi Sherhadeh, oui, merci beaucoup de nous avoir fourni ces opinions. C'est plus que d'entrer dans une discussion à propos des risques. C'est bon de savoir quelles sont les inquiétudes de chacune des unités commerciales en ce moment, unités constitutives maintenant. Je pense qu'il faut s'engager que l'équipe de gestion et l'équipe de risque pour qu'il y ait une rencontre avec vous plus souvent et de façon individuelle et nous assurer que nous comprenions exactement ce que vous voulez dire, que nous vous écoutions exactement comme vous avez parlé de la sécurité par exemple et de vous donner une réponse à chacun de sur chacun de ces éléments pour que ces choses puissent être réglées. Et si nous, par exemple, nous n'écoutons pas pourquoi nous n'écoutons pas, nous devons donc nous engager, participer avec vous sur ces choses. Vous êtes très clair. Par exemple, les échecs des programmes nouveaux GTLD, ce n'est pas très clair. Où sont les échecs? Est-ce que c'est une micro-déclaration, disons? Est-ce que les nouveaux programmes de GTLD, est-ce que ce n'est pas aussi... Non, les nouveaux G sont utiles ou pas. Donc, nous vous remercions pour vos efforts là-dessus. Avec votre permission, je voudrais participer avec vous après notre retour à la maison et ainsi agir. Et nous aurons nos 2 équipes de risque de gestion. Nous ne pouvons pas donc participer avec tous d'entre vous. Nous pouvons participer avec vous tous d'un seul coup ou de façon individuelle. Elisa, oui, nous apprécions cela et nous allons faire du suivi là-dessus. Donc, Greg Ray, ensuite, c'est ça? Greg Chapman, président de l'unité représentant la propriété intellectuelle. Je peux vous dire que ce qu'il y a sur la diapo, c'est vraiment juste les choses qui sont les plus importantes. Nous avons fourni aussi 2 ou 3 pages pour détailler ces problèmes-là. Et souvent, les grands titres ne décrivent pas forcément les nuances de ce que nous avons vraiment, des documents que nous avons rassemblés. Nous avons plus de détails. Nous voulons continuer. Nous voulions résumer la discussion. Il y a des titres qui sont moins clairs que les autres. Donc, quand il s'agit de la sécurité, de la cybersécurité, nous, LISP, nous avons identifié des risques qui sont les échecs vis-à-vis de l'amélioration des services d'identification d'enregistrement, d'enregistrement des identifiants, les problèmes WIS et toutes ces informations privées qui sont publiées sur l'Internet, essayer de faire la chasse à tous ces liens et de se retrouver dans un endroit exotique où les criminels se trouvent. C'est pas forcément tout cela n'est pas lié aux informations WIS. Tout le monde utilise l'Internet pour aller d'un endroit à un autre. Et il n'est pas facile. La façon de savoir d'où vient telle ou telle personne, c'est d'utiliser WIS. Il n'y a que quelques solutions pour AK1, DNSSEC et pour WIS. Et ce sont des systèmes, des programmes intéressants. Nous, à l'AK1, ne gérons pas l'Internet. Et en deuxième, je peux identifier deux risques qui seraient peut-être des menaces au modèle multipartite. Il s'agit de la surcharge de travail pour les bénévoles. C'est un risque pour le modèle multipartite. Et puis aussi, il y a le risque de déséquilibre. Et la marginalisation des IP et d'autres unités constitutives, d'autres multiparties prenantes. En résultat, que nous ne le voulions pas, nous avons des résultats que nous ne cherchons pas forcément, des pays, des petites plateformes, qui viennent des petits pays, des petites plateformes. Le processus est là, mais nous n'avons pas toujours les résultats que nous attendons. C'est juste un ça fait partie du contrôle des efforts, de l'équilibre des efforts que nous mettons en place. Nous avons beaucoup discuté sur ce problème. C'est donc un problème très complexe à discuter. Nous avons reconnu qu'il y a plusieurs menaces, et ces menaces qui se regroupent. Le modèle ne peut pas être promu et on ne peut pas si le modèle multipartie prenante ne ressemble pas à un club auquel on a envie de participer, disons, qu'on a envie de joindre. Ray Plesac. Oui, je voudrais revenir vers le commentaire de Bruce. Ce n'est pas seulement d'obtenir que de personnes participent aux différentes unités constitutives. Le modèle multipartite aura des problèmes si nous ne formons pas de nouveaux leaders. Je ne parle pas des gens qui doivent continuer à être élus à certaines positions, mais je parle des gens qui ont des voix, des opinions dans la communauté, qui représentent les voix de la communauté. On n'a pas besoin d'être élu pour être un leader, mais je ne vois pas beaucoup de nouveaux leaders. Parce que si vous regardez, par exemple, au forum public, vous voyez toujours les mêmes personnes. Et voilà, on est censé entendre les voix, les opinions des gens. Quand on parle de la surcharge de travail des bénévoles, on a une surcharge de travail parce qu'on a beaucoup de personnes, mais il n'y a que certains d'entre eux qui font le travail. Donc, il faudrait trouver des façons de développer une participation active. Et puis, en final, il faudrait que les gens assignent du travail comme s'ils avaient des employés. Nous n'avons pas d'employés, ce sont des volontaires. Donc, il faut faire les choses de façon différente pour développer une participation. Il faut trouver des gens qui soient positifs. Il faut trouver des manières positives pour encourager les gens à faire le travail. Donc, ce n'est pas seulement des risques d'entreprise auxquels doit faire face le conseil d'administration, mais ce sont des risques auxquels tout le monde doit faire face. Greg, pour répondre à Greg, c'est quelque chose dont on a parlé beaucoup dans nos réunions de leadership plus tôt et aussi dans nos listes d'intérêts importants, dans la réunion que nous avons sur les risques d'intérêts importants. Il faut, on en est à faire de changer les travailleurs en que les travailleurs deviennent des travailleurs. Elisa, d'autres commentaires? Fadi Sheradeh, merci Greg. On est très heureux d'avoir de nouveaux leaders à la table. Non, il n'y a rien de mal avec les anciens leaders. Nous travaillons avec eux et c'est bon de travailler avec eux, mais c'est bon d'avoir des nouveaux. Tout d'abord, je voudrais remercier Greg pour son engagement, sa participation, son enthousiasme, son approche positive au travail que nous faisons ensemble. Nous sommes vraiment très heureux qu'il nous ait rejoint. Merci et félicitations sur un très bon choix. Nous avons des discussions de substance avec la leadership ici sur, par exemple, la surcharge de travail pour les bénévoles. Nous essayons de voir comment nous allons changer cela. Comment est-ce que nous allons amener de nouvelles personnes à participer? Par exemple, nous avons fait un sondage que nous avons partagé avec vous qui montre que la plupart des gens qui viennent à l'ICANN et qui restent, qui s'engagent, qui participent, c'est parce qu'ils avaient tout d'abord un mentor. Nous avons vu que ainsi c'était la raison pour laquelle ils restaient. Et ensuite, on s'est demandé comment est-ce qu'ils ont trouvé un mentor. Et je regarde à telle personne et je vois qu'elle fait ça naturellement. Comment est-ce que les gens trouvent un mentor? Est-ce que c'est en passant dans les couloirs, trouver quelqu'un, leur disant est-ce que vous pouvez m'aider, parce que je ne comprends rien? Donc, tout de suite, nous devons trouver comment formuler cela. Comment est-ce que, par exemple, demain, nous allons rencontrer avec des anciens membres du conseil d'administration. Ah non, c'est aujourd'hui, oui, donc aujourd'hui, je ne serai pas en retard. Donc, c'est une offre pour eux, les anciens membres. Vous étiez des membres du conseil d'administration. Et puis, on peut peut-être leur demander s'ils peuvent aider, s'ils peuvent devenir des mentors. Peut-être ils peuvent trouver des gens avec qui ils veulent travailler. Donc, merci. C'est juste une idée. Il y a plein de choses sur la table. Nous participons de façon différente et je voudrais vous remercier de votre leadership. Elisa, Marcus, un commentaire? Oui. Je ne suis spécialiste sur les risques d'entreprise. Je ne suis pas au comité, mais je participais dans les modèles multipartis depuis beaucoup de temps. Je vois que ceci est sur l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, en écoutant hier, je me suis rappelé comment c'était un modèle révolutionnaire à l'époque. Je voudrais rappeler que l'ICANN, c'est encore une organisation très jeune. ICANN n'est pas adulte encore, il est encore qu'adolescent. Je pense qu'aux États-Unis, on n'aurait peut-être même pas... si, peut-être qu'on aurait un permis de conduire. En Europe, elle pourrait avoir une bière, mais aux États-Unis, on ne pourrait pas avoir une bière. Aux États-Unis, elle pourrait conduire, en Europe, ne pourrait pas conduire. Enfin bon, ceci étant dit, certains des éléments que j'ai vus au niveau des risques d'entreprise, je sais que c'est très important, et nous discutons de la responsabilité, et ça, c'est important. La transparence, c'est important. La prévention de capture, c'est important, extrêmement important. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous travaillons là-dessus. Et je suis confiant que d'ici que ICANN arrive à l'âge adulte, légal, nous y serons. Et nous devons être là pour avoir une transition qui soit réussie. Voilà mon commentaire. Merci pour l'effort dans le lancement de cette discussion.
Marilyn.
Elisa, micro. Marilyn. Merci, Marilyn Gates, au micro. Il y a eu une question sur la question de savoir comment l'ICANN pouvait être plus efficace. Je voudrais dire que, à une époque, l'ICANN n'avait pas les ressources financières nécessaires pour être à même de faire en sorte que les unités commerciales et les groupes soient aidés. Aujourd'hui, il y a les moyens pour fournir un certain soutien et ça c'était très utile. J'aimerais dire que je pense qu'il va nous falloir demander peut-être d'autres types de soutien afin de nous aider à approfondir cela. Et à titre d'exemple, ces dernières années, il y a 2 ou 3 ans, le financement que l'ICANN a pu apporter pour nous aider à soutenir les activités de sensibilisation, pour aider également à amener les gens à participer à d'autres organisations sœurs, comme l'IGF par exemple, pour continuer à travailler avec d'autres parties prenantes. Tout ça, ce sont des activités extrêmement importantes. Et s'agissant du budget d'ailleurs, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le conseil d'administration et vous en demander peut-être un petit peu plus. Elisa au micro, merci. Sur ce, nous allons passer à la deuxième partie de notre séance aujourd'hui. Mais avant de le faire, j'aimerais de nouveau remercier Steve et Fadi qui ont reconnu les différences entre toutes nos unités constitutives. C'est très important pour nous et je sais que vous comprenez parfaitement que nous avons chacune notre point de vue, qu'il y a des choses que nous avons en commun et des choses qui sont divergentes. Cela étant dit, et ça, s'agissant des différences et des points communs, j'aimerais en venir à un sujet brûlant, à savoir que chaque unité a identifié son sujet brûlant qu'elle aimerait partager avec les membres du conseil d'administration. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'apporter une réponse à cette question brûlante. À l'avenir, j'espère que nous allons pouvoir le traiter, mais il s'agit de vous faire prendre conscience de ce qui est important pour nous et de ce qui est un sujet pour nous brûlant. Donc, Sean va nous parler du sujet brûlant pour les unités des représentants de la propriété intellectuelle. Oui, Greg au micro, Greg Chatan. Oui, je vais demander à Steve Metalitz de vous parler de ce sujet brûlant. Donc, Steve Metalitz, vice-président de l'IPC et président actuel de l'IPC. Steve Metalitz au micro. Merci, Greg. Comme Elisa l'a dit, en fait, on vous présente un sujet qui a été au cœur de nombreuses conversations au sein de l'IPC. Pour ceux d'entre vous qui ont été au conseil d'administration depuis plusieurs années, ne seront pas surpris d'écouter la question de la conformité contractuelle. Mais il ne s'agit pas de la même question qui a été à maintes reprises présentée devant ce conseil d'administration par rapport à l'engagement, aux priorités, etc. C'est une nouvelle question. Il s'agit d'une préoccupation par rapport à la transparence dans le processus de conformité. Et j'aimerais vous donner 2 exemples. Bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail des choses. Le nouvel accord de registre des nouveaux GTLD et l'accord d'accréditation de 2013 ont démontré qu'on a beaucoup travaillé pour essayer d'encourager l'ICANN et les parties prenantes contractuelles quant aux obligations des parties contractuelles pour répondre face aux activités illicites qui ont lieu dans le cas des registres, dans le cas des registres des nouveaux GTLD ou dans l'utilisation des noms de domaine sponsorisés par les bureaux d'enregistrement accrédités dans le cas des RAA. Donc c'est très important pour nous et on est très préoccupé par l'absence de transparence dans la manière dont ces dispositions très importantes sont en train d'être interprétées par rapport à la conformité contractuelle. Nous savons qu'il y a eu des questions soulevées par rapport à ces violations aux ruptures de contrat parce que cela a été reporté. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas quelle norme a été appliquée par l'ICANN en cas de violation. De la même manière, on le sait de sources sûres que nous avons porté plainte auprès des bureaux d'enregistrement lorsqu'il y a des activités illicites, lorsqu'il y a des utilisations de noms de domaine qui sont sponsorisés, et on n'a eu aucune réponse. Rien n'a été fait. Et lorsque l'on se plaint auprès de l'ICANN, on nous dit à l'ICANN que la réponse des bureaux d'enregistrement était correcte. Donc là encore, on ne sait pas si autre chose a été fait et on ne sait pas quelle est la norme appliquée par l'ICANN dans ce genre de cas de figure. Donc nous, on a besoin davantage de précision, mais je crois que les parties contractuelles également doivent savoir ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ne doivent pas faire, et qu'on n'ait pas une liste simplement de ce qu'elles peuvent faire, mais qu'il y ait davantage de prévision, de cohérence dans ce système. Parce que là encore, il s'agit pour nous de deux dispositions nouvelles extrêmement importantes par rapport à la capacité de l'ICANN pour apporter une plus grande protection des utilisateurs dans le système. Il y a d'autres exemples qui sont liés, par exemple, au niveau des registres, quant aux changements significatifs dans les politiques adoptées par les opérateurs de registres de nouveau GTLD. Sans modifier l'ordre en termes de changement, et par rapport à la préoccupation exprimée par beaucoup par rapport à la manière dont ces nouveaux GTLD fonctionnent. Là encore, il s'agit d'une question de transparence. Le changement a été tel dans les politiques que doivent suivre les opérateurs de registre et on n'a eu aucune manière d'intervenir ou de réagir. On a simplement été mis devant le fait accompli de ce changement. Donc, nous aimerions travailler avec l'équipe de conformité. D'ailleurs, nous avons ces débats avec eux pour qu'il y ait davantage de transparence dans le système. Mais nous voulions attirer votre attention sur cette question. C'est un sujet brûlant pour nous, à l'IPC, par rapport au nouveau GTLD et aux opérateurs de registre. J'espère que nous allons pouvoir travailler avec le personnel ICANN sous l'orientation et avec l'orientation des membres du conseil d'administration pour avancer là-dessus. Elisa au micro, Bruce. Bruce au micro, oui, merci Steve. On a entendu un petit peu la même chose de la part des unités constitutives des opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement. Je sais que vous êtes avocat et souvent, lorsqu'il y a de nouveaux accords instaurés entre deux parties et dans ces termes, il y a des problèmes d'interprétation. Et dans le cas des contrats entre deux parties, il y a un contrat et ensuite des amendements. En disant, voilà, il faut préciser telle ou telle clause et voir exactement ce qu'elle signifie. La question, c'est de savoir comment agir de même dans le cas de notre communauté. Et ce dont vous parliez, la transparence, c'est essentiel, effectivement. Je crois qu'il faut faire en sorte que toutes les parties prenantes qui sont affectées, que ce soit les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement, puissent disposer d'une source de réclamation dans le cas des IPC. Et il faut essayer de préciser la rédaction de ces contrats pour pouvoir mieux les interpréter. Autre commentaire que j'aimerais faire. Les opérateurs de registre ont souvent tendance à jouer différents rôles. C'est un nom de domaine et voilà le point de contact pour ce nom de domaine. Et dans d'autres cas, ils sont hôtes d'un site web ou d'un service email. Et donc la réponse qu'ils donnent face à ces réclamations peut varier en fonction des cas. Donc là, il faut qu'il y ait une harmonisation dans les réponses en fonction du secteur d'entreprise dans lequel vous travaillez et en fonction de l'infrastructure que vous gérez pour les titulaires de noms de domaine. Et ça ajouterait à la transparence de tout ce système. Elisa au micro, y a-t-il d'autres questions à Steve ? Oui, personne au micro. Effectivement, Steve Medalitz au micro. Effectivement, ces précisions sont importantes. Nous comprenons, je comprends ce que vous venez de dire, mais en tant que bureau d'enregistrement, et leur nouvelle responsabilité dans le cadre des RAA 2013, ils ont de nouvelles responsabilités. Nous savons qu'il ne s'agit pas simplement de décisions unilatérales, mais nous avons besoin de connaître bien le processus qui a donné lieu à cela. Élisée au micro, Fadi. Fadi au micro. Oui, Steve, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Mais j'aimerais poser une question. Vous n'avez pas donné deux exemples. Vous avez fait part de deux grandes préoccupations que vous avez. Et voilà ma suggestion. Nous sommes en train d'amorcer une phase critique où de nouveaux contrats ont été signés grâce au fait que la communauté nous a aidés à élaborer de bien meilleurs contrats, d'après moi. Et maintenant, la conformité amorce la phase délicate de l'interprétation. Qu'est-ce que cela veut dire? Et bien entendu, il y a des domaines où l'IPC va dire « voilà, j'interprète cela de telle manière ». Or, les opérateurs de registre disent « voilà, je l'interprète d'une toute autre manière ». Donc, il faut faire un lien entre les uns et les autres pour atténuer les tensions et les frustrations. Il faut qu'il y ait davantage de précision pour savoir comment mettre en œuvre ces contrats. Donc, Alan Grogan est parfaitement conscient de cela. Il a parlé avec les deux parties prenantes. Est-ce que Alan Grogan est dans la salle? Je vais lui demander de prendre dès maintenant le temps nécessaire pour passer du temps avec vous et s'assurer qu'il vous comprenne bien et qu'il parvienne à une interprétation pour que son service agisse. Mais je pense que personne ici dans la salle ne dit que le nouveau RAA et les nouvelles dispositions du nouveau RAA, qui d'après moi sont bonnes, ne vont pas changer les choses. Forcément, elles vont changer des choses. Nous avons signé un contrat. Donc, vous avez mon engagement et vous savez que nous avons énormément investi dans ce service pour essayer de préciser les choses. Et je vais, pour ma part, m'assurer que Greg agisse dès maintenant pour qu'il y ait une interprétation claire là-dessus. Steve au micro, merci Fadi. Merci de cela. Élisée au micro, bien. Je vais présenter le deuxième sujet brûlant pour notre unité qui concerne les nouveaux GTLD. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes au-delà des nouveaux GTLD parce que voilà, c'est une chose de fait, mais pour nos unités, nous avons encore certaines préoccupations, dont une liée au TLD extrêmement réglementé. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont sur la voie de la délégation. Et donc, ce qui nous préoccupe, c'est que nous n'avons pas employé les big specs de la meilleure manière. Et il y a d'autres préoccupations quant au nouveau GTLD. Par exemple, nous sommes préoccupés par le fait que les noms de réserve, lorsqu'ils apparaissent sur les listes, ne sont pas soumis à une période sunrise ou que cette période sunrise n'a pas eu lieu parce que la période sunrise n'a pas été observée par les différents bureaux d'enregistrement ou pour les noms premium qui sont également des marques déposées. Donc voilà un petit peu les points essentiels de nos préoccupations par rapport au nouveau GTLD et nous attendons avec impatience de pouvoir participer aux révisions qui vont avoir lieu, participer aux groupes de discussion qui vont avoir lieu ça va être difficile pour nous, mais étant donné qu'il s'agit de points d'achoppement pour nous et de choses qui nous préoccupent énormément, on va y participer. Vous vouliez en parler maintenant ? Oui, excusez-moi, oui, vous avez la parole. Sherine Chalabi au micro. Oui, je vais parler des PICS et peut-être que je vais laisser le soin à mes collègues de parler des noms de réserve et des autres thèmes que vous avez évoqués. Sachez qu'hier, nous avons eu une réunion avec le GAC, l'ALAC, les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement et également les membres des unités commerciales. Donc, ça a eu lieu hier soir. Et cette réunion a duré un peu plus de 2h30. L'objectif étant d'essayer de répondre à ces préoccupations. Et très honnêtement, c'est la première fois que ce groupe s'est réuni de manière collective. Et dès le début, on a dit qu'il s'agissait d'une réunion où on n'allait prendre aucune décision et qu'on allait traiter ces 39 chaînes extrêmement sensibles en catégorie 1. Donc, on est convenu de se réunir à nouveau et de réfléchir entre-temps à des idées que nous allions soulever lors de la prochaine réunion. Tout le monde sait qu'il faut se réunir pour agir sur cette question. Elisa au micro, oui, c'est parfait, merci. Bien. Je pense que nous allons laisser le soin à Tony de nous parler des ISP. Tony Holmes au micro, merci. On a parlé du fait que l'ICANN est encore une jeune organisation, mais je crois que nous sommes matures lorsque nous pouvons avoir de bonnes discussions et de la bonne manière. Et je pense que c'est ce qui s'est passé lors de cette réunion. Nous avons eu des discussions franches et direct avec certains membres du conseil d'administration. Et pour ma part, j'aime beaucoup les mardis parce qu'on a l'occasion d'être face à face avec les membres du conseil d'administration. Et très souvent, on peut exprimer clairement nos préoccupations. Et j'aimerais remercier Fadi qui a amélioré la manière dont nous pouvons, grâce au dialogue avec les organisations de soutien et les comités consultatifs, améliorer ce dialogue entre nous. Et ça a été une autre opportunité de le faire. Donc j'aimerais essayer d'avancer de manière positive du côté des ISP. Nous avons fixé les priorités sur ce dont nous allions débattre. Et très franchement, il n'y a eu aucun doute sur ce que nous voulions débattre, à savoir l'acceptation universelle des nouveaux GTLD. Parce que c'est quelque chose qui est crucial pour la communauté que nous représentons. Lorsqu'il y a un problème sur Internet, que ce soit du côté des ISP ou non, et on en a eu l'expérience déjà avant, avec l'augmentation de l'espace des noms de domaine. Donc, on est arrivé à la réunion avec plusieurs préoccupations autour de ces questions. Mais un autre témoignage de la maturité de cette organisation, c'est la volonté de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés avec l'aide de toute la communauté. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'est effectivement produit. Nous sommes arrivés à Singapour et depuis, il y a beaucoup d'activités dont je suis sûre que le conseil d'administration est au courant, une initiative qui inclut la participation de plusieurs parties prenantes, opérateurs de registre, bureaux d'enregistrement et personnel ICANN d'ailleurs. Donc il y a un programme qui commence à prendre forme et à avancer. Et la seule demande que je formulerai ici, c'est de demander au conseil d'administration que ce niveau d'engagement et de soutien pour ces activités soit là. Et ça fait longtemps que ça se produit parce que c'est très difficile de quantifier, voire de comprendre la manière dont nous allons pouvoir traiter tous ces aspects. Mais il va falloir le faire. Sur ce, j'aimerais en appeler à plusieurs membres de la communauté ISP qui participent déjà très activement à ces activités de soutien. Donc j'aimerais demander à Tony Harris et Christian Dawson de développer un petit peu ce qu'ils savent sur cette question. Tony Harris au micro. Oui, je me sens très positive par rapport à ce qui se passe ici. J'ai eu des conversations depuis plusieurs années avec Ram Mohan, avec Fadi également, pour leur faire part des préoccupations que nous avions en tant qu'unité constitutive par rapport à l'acceptation universelle. Nous ne pensons pas qu'il s'agit là d'une question secondaire. Nous pensons que l'ICANN a une responsabilité dans, en d'autres termes, l'ICANN ne peut pas contrôler ce que les développeurs font sur les applications et les plateformes d'email. Donc, on ne peut pas dire à l'ICANN, voilà, vous avez développé, vous avez mis en place tous ces TLD, et voilà les problèmes que nous avons, à vous de les résoudre. Donc, il y a de notre côté, du côté des FS, des fournisseurs de services Internet, il y a des problèmes concrets dans les centrales d'appel. Je sais qu'il y a une réunion à Washington. Je n'ai pas pu m'y rendre personnellement, mais d'autres y ont été. Je veux personnellement remercier le personnel de l'ICANN. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est une excellente chose. C'est très positif. En tout cas, notre position, ça n'est pas de dire, voilà, c'est à l'ICANN de le régler. On doit le régler ensemble. Mais je vais laisser le soin à Christian de développer cela. Merci beaucoup. Je m'appelle Christian Dawson. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet. Alors, pour savoir bien ce dont nous sommes en train de parler, nous participons à un atelier qui a été organisé il y a quelques semaines à Washington. J'y ai participé afin de commencer à débattre de ce dont notre communauté doit commencer à faire pour résoudre cette question. On a décidé de mettre en place un plan d'action pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Et nous avons élaboré un plan constituant un comité ou un groupe de travail directeur sur l'acceptation universelle. Et donc, ce groupe directeur sur l'acceptation universelle nous a aidé à commencer à avancer. Mais il s'agit d'un effort de la communauté pour voir comment résoudre ce problème. Nous avons pris le soin de bien choisir cet intitulé de groupe directeur, parce qu'il ne s'agit pas de politique ici, mais plutôt de plaidoyer. Il faut essayer de toucher plusieurs communautés de l'écosystème de l'Internet. Il faut trouver le moyen de contacter les FSI et toute une série de personnes qui ont des problèmes vis-à-vis de leur système, de leur base de données, de leur plateforme, et essayer de les faire avancer plus vite pour qu'ils puissent accepter tous les portefeuilles modernes TLD. On va devoir nous concentrer sur les meilleures pratiques, essayer d'élaborer des plans pour voir comment régler le problème, essayer de voir quelle est la meilleure plateforme de source qui existe, prendre contact avec ces individus et essayer d'avoir une attitude proactive. Et on n'essaie pas de se concentrer sur les 100 ou 1000 sites web les plus populaires, mais essayer de toucher tout le monde, parce qu'il faut s'assurer que tous les sites web du monde peuvent accepter les nouveaux TLD, et on doit s'assurer que quelqu'un qui utilise un portable et qui se trouve au milieu du désert peut avoir accès à Internet dans sa propre langue avec le nouveau programme IDN. Ça, c'est important. Donc, on est très enthousiaste à l'idée de traiter cette question, nous, en tant que communauté. Nous savons que c'est une question importante pour le conseil d'administration. Il s'agit ici de plaidoyer, mais on a des besoins en termes de financement. Et nous pensons que la chose la plus importante que vous pouvez faire pour traiter cette question, c'est justement de nous aider de ce côté-là.
Fadi Sheradeh, trois commentaires rapides. Je voulais remercier Tony pour allumer le feu, disons, pour moi, à propos de ces préoccupations. C'est comme ça que fonctionne la CAN. Merci pour cela. Je suis en désaccord avec quelque chose que vous avez dit. Vous dites que ce ne serait peut-être pas la responsabilité de la CAN. Je ne suis pas si sûre que ça. Je pense que nous ne pouvons pas forcément introduire tous ces TLD et dire simplement, bon, les choses sont comme ça, elles se passeront comme ça. Nous avons une responsabilité. Et je suis heureux de voir que nous avons pris plus de responsabilités quand nous avons facilité le nouveau UASG. Les t-shirts arrivent d'ailleurs. Mais je pense que c'est bien. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que si on réussit avec les nouveaux UASG, si l'on met un certain montant d'effort, nous devons trouver les associations, du moins les unités, les organisations qui nous avons tiré profit des associations ISP, les logiciels les associations de développement de logiciels email. Nous devons trouver ces organisations qui feront la différence pour nous. Et vous avez mon soutien dans ce sens-là et le soutien de la CAN. Merci aussi à vous pour votre leadership. Et moi, en tant que membre, je vous remercie et je vous dis que oui, c'est notre responsabilité. Tony Holmes, une autre chose qui a été soulignée quand on a commencé le dialogue avec vous aujourd'hui, en parlant du modèle multipartite prenante, du côté infrastructure, il y a un impact qui vient de la qui résulte du travail. Il y a des bénéfices lorsqu'on amène de nouvelles personnes à la table pour que ces personnes participent à la CAN. Il y a un endroit pour tout le monde dans la CAN. Il y a une lacune si ces gens-là ne sont pas avec nous. Il faut parler de la croissance de la CAN. Il faut commencer à inclure dans ces infrastructures, dans la structure de la communauté, ramener plus de participation. Elisa, oui, merci à tous les membres du conseil d'administration, Steve, Shadi et tous d'entre eux. Ils ont pris le temps de nous écouter. Je vois que ce n'était pas douloureux, c'était un bon moment. Nous avons vraiment apprécié l'opportunité de fournir à Ram les informations dont il a besoin. Et Fadi, vous avez offert de nous retrouver, de nous rencontrer tous ensemble ou de façon individuelle. Nous allons prendre note de cela. Merci.